l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. C'est 14. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui à crier, disant, c'était celui-ci, duquel je disais, celui qui vient après moi, prend place avant moi, car il était avant moi. Car de sa plénitude, nous avons reçu et grâce sur grâce. Car la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Quelques versets dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1. Verset 1. Dieu, ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, il nous a parlé dans le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Étant devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Et encore, moi je lui serai pour père, et lui me sera pour fils. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit, « Et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. » Et quant aux anges, il dit qu'il fait ses anges des esprits et ses ministres une flamme de feu. Mais quant au Fils, ton trône, ô Dieu, est au siècle des siècles. C'est un sceptre de droiture que le sceptre ton règne. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront tous comme un habit, et tu les plieras comme un vêtement, ils seront changés. Mais toi, tu es le même, et tes ans ne cesseront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marche-pied de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Jusque-là. Le cantique que nous avons chanté nous conduit à considérer cette gloire qui brille dans la parole de Dieu. Mais cette gloire qui nous présente, en fait, cette personne glorieuse, la personne du Seigneur Jésus. On sait que le Seigneur est le centre des conseils et des pensées de Dieu. Ce n'est pas l'homme. Nous ne sommes pas au centre des pensées de Dieu. Nous sommes des objets de bénédiction, mais nous l'avons lu, et le Seigneur est le créateur de toutes choses, Toute chose, au verset 3 de l'évangile de Jean, toute chose fut faite par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Dans l'Épître aux Hébreux aussi, nous l'avons lu, par lequel il a fait les mondes. Et puis, nous pouvons ajouter ce passage de l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1. Verset 16. Par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est donc clair que si nous sommes des objets de bénédiction, cette création dans laquelle nous mouvons et ces créatures que nous sommes ont pour but la gloire et l'honneur du Fils de Dieu. L'Évangile selon Jean nous présente directement le Seigneur sous ce mot « au commencement était la parole ». Verset dans, j'espère que je vais le retrouver, dans le livre des Psaumes, tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom, ce qui nous montre que, en fait, la pensée de Dieu, c'était donc de présenter c'est au psaume 138, verset 2. Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté, je te célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Cette parole qui vient pour nous révéler ce qu'est Dieu a été exaltée au-dessus de tout son tout nom. Dieu s'était fait connaître de plusieurs manières. Il s'était fait connaître comme le Dieu Tout-Puissant, comme on le voit pour Abraham. Je suis Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. Il s'est fait connaître comme je suis à Moïse. Il s'est fait connaître comme l'Éternel des armées, comme nous l'avons lu dans le livre de Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et puis, ici, il se fait connaître comme la parole. Qu'est-ce que la parole ? La parole, par la parole, nous exprimons à la fois nos pensées et aussi nos affections. Et par sa parole, Dieu nous a fait connaître ses pensées, ses conseils, et aussi nous a fait connaître ce qu'il y a dans son cœur. Mais cette parole, nous l'avons bien compris à la lecture et tout le monde le sait, c'est la personne du Seigneur Jésus. Il est remarquable, cette phrase du premier verset de l'Évangile selon Jean est claire, au commencement était la parole. Cette parole était au commencement. Il y avait donc, avant tout commencement, la personne du Seigneur Jésus qui était le centre des conseils de Dieu. On l'a en type dans la personne de Joseph. Quand Joseph nous est présenté au chapitre 37 de la Genèse, il est dit, ce sont ici les générations de Jacob, Joseph. Et on peut bien comprendre que par ce type, Joseph qui est un type remarquable du Seigneur Jésus, par ce type, Dieu nous montre comment le centre de ses conseils et de ses affections était la personne du Seigneur Jésus. Il était au commencement de toute éternité. Cela nous est exprimé dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5, il est parlé de lui comme celui duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Michée 5, verset 8. Il y a... Nous savons aussi comment le livre des Proverbes, au chapitre 8, nous le présente comme celui qui est de toute éternité. Quand il est dit au chapitre 8 des Proverbes, « L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres d'ancienneté. » Les œuvres nous parlent donc de la création, et il est dit « L'Éternel m'a possédé. » Et puis, nous avons cela dans plus en détail, verset 27. « Quand il disposait les cieux, j'étais là, même avant, verset 25, avant que les montagnes soient établies sur leur base, avant les collines, j'ai été enfanté. » Ainsi, une vérité que nous devons maintenir jalousement, qui a été combattue et qui peut être encore combattue de nos jours, c'est que le Seigneur est éternel dans son être, dans son existence. On a toujours peur, quand on parle de lui, d'employer des termes qui soient impropres. Mais il faut bien maintenir cette vérité que le Seigneur est de toute éternité. Il s'appelle, et on le trouve particulièrement dans le livre d'Apocalypse, celui qui est, qui était et qui vient. Et il est remarquable, peut-être donner la référence. Apocalypse 1, verset 8. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Rien que ce verset pourrait faire l'objet d'une méditation. Il est l'alpha et l'oméga, et les lettres alpha et oméga, nous le savons, sont les premières et dernières lettres de l'alphabet grec, qui fait référence donc justement à la parole écrite que Dieu donne. Mais cette parole écrite, elle est fondée sur la personne même du Seigneur Jésus. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il n'est pas dit celui qui était, qui est et qui vient, mais celui qui est, c'est-à-dire celui dont l'existence est éternelle. Celui qui dit « je suis » est celui qui demeure le même, sans changement, sans variation, sans ombre de changement, comme nous le trouvons dans l'épître de Jacques, sauf erreur. Et puis, il est celui qui était et qui vient, et cela, c'est en rapport avec la création et avec nous. Il était avant que nous sommes, et il vient, et nous l'attendons. Et puis, il est rajouté, le Tout-Puissant. Aucune puissance ne prévaut sur la personne du Seigneur Jésus. Il est le Tout-Puissant. Cela s'est vu dans sa marche sur la terre, en ce qu'il était celui qui dominait à la fois les éléments de la création. Qui est celui-ci, disaient les disciples, que le vent et la mer même lui obéissent, qui dominait sur les conséquences du péché, il guérissait les maladies, et qui dominait aussi sur les démons, et qui pouvait dire, et pouvait chasser par une parole un démon. Et les démons eux-mêmes pouvaient dire, craignaient en voyant. Et certains disaient, ne nous envoie pas dans l'abîme. Voyons donc la grandeur de cette personne éternelle, celui qui est, qui était et qui vient. Il est le Je suis de l'Ancien Testament. Puis la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. La parole était auprès de Dieu. Et ça nous fait penser à ce conseil que Dieu avait de toute éternité de se révéler à des créatures intelligentes, capables d'entrer en relation avec lui. Et l'homme est une créature intelligente qui possède une âme vivante, c'est-à-dire une âme qui est capable d'entrer en relation avec son créateur. Cette relation que Adam avait avec son créateur, il l'a perdue à cause de la chute. Ce n'était pas la relation que nous avons. C'était une relation de dépendance, de soumission et aussi de bénédiction. Nous voyons bien que Adam devait être obéissant. Il ne mangera pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait une responsabilité. Il devait cultiver et garder le jardin. Il avait une autorité. C'est lui qui a donné son nom à tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants sont passés devant lui et ont reçu un nom de sa bouche. Donc on voit l'intelligence que Dieu avait donnée à cet homme, qui est peut-être cette intelligence qui s'est peut-être dépravée à cause du péché, mais Adam avait une intelligence remarquable, donner des noms à tous les êtres vivants, qui nous rappelle un peu ce qu'a fait Salomon en son temps, quand il avait écrit sur toutes les plantes et les herbes. Et puis, il avait aussi, Adam et nous aussi, étaient capables d'avoir des affections et des sentiments. Et Dieu lui avait donné comme aide, mais aussi comme l'objet de ses affections, cette épouse, celle qu'il a appelée Isha, parce qu'elle était tirée de l'homme Ish. La parole était auprès de Dieu. Dieu avait donc par-devers lui de se révéler aux hommes. Et il s'est révélé aux hommes. Mais il est dit aussi, et la parole était Dieu. Personne distincte, mais de même nature que Dieu. Nous lisons dans l'Épître aux Colossiens qu'en lui, toute la plénitude de la déité s'est plu à habiter corporellement. Colossiens 1, toute la plénitude s'est plu à habiter. Et chapitre 2, toute la plénitude s'est plu à habiter corporellement. Ce qui, on pourrait le souligner, nous montre que si tout ce que Dieu est a été vu dans la personne du Seigneur, le Seigneur, homme ressuscité, est aussi celui en qui toute la plénitude s'est plu à habiter corporellement. C'est-à-dire d'une manière qui nous soit accessible, nous qui sommes des créatures qui avons un corps. Elle était auprès de Dieu, elle était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. On voit la répétition, l'insistance de la parole pour préciser l'éternité de la personne du Fils de Dieu. Nous avons noté qu'il est le créateur de toutes choses. Toutes choses furent faites par elle. On retrouve cela dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, dans les versets que nous avons lus. Par lequel aussi il a fait des mondes. Et puis, il est dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On peut remarquer en lisant ce verset, et il est peut-être bon de le souligner pour que nous soyons attentifs, que la note nous dit que ce verset qui, en elle était la vie était la lumière des hommes, il peut être aussi traduit par la lumière des hommes était la vie. Ce qui nous montre bien qu'il n'y a pas de vie sans lumière, il n'y a pas de vie. La vie et la lumière sont étroitement liées. Dieu est lumière. C'est ainsi que la première épître de Jean commence. Dieu est lumière, il n'y a en lui aucune ténèbre. La lumière, c'est ce qui manifeste tout. Et ce qui manifeste tout selon la pensée de Dieu. Et cette lumière, c'est aussi la vie. Et c'est dans la personne du Fils qu'est la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de la personne du Seigneur Jésus. Il est parlé après, au verset 5, que la lumière luit dans les ténèbres n'ont pas comprise. Le Seigneur est venu sur la terre et nous savons comment les ténèbres ont enveloppé la terre à cause du péché, à cause de la chute de l'homme. Il nous faut comprendre ce que sont les ténèbres. On ajoute des fois, pour s'exprimer, les ténèbres morales. C'est l'absence de discernement et de connaissance des choses selon la pensée de Dieu. C'est en fait le prince des ténèbres, c'est Satan, et c'est Satan qui est le père du mensonge, le menteur est le père du mensonge. Et les ténèbres sont caractérisées par le mensonge, et donc le mensonge entraîne l'ignorance. Eh bien, il est bien dit, la lumière a luit dans les ténèbres. Le Seigneur est venu, il a fait briller la vérité, lui qui se présente un peu plus loin dans l'Évangile comme la vérité. Il a fait briller la vérité, mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et il est dit aussi que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Nous avons lu au verset 14, la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous comprenons bien que cela nous parle de la venue du Seigneur en chair. Il est venu en ressemblance de chair de péché, comme nous le lisons dans Romains 8. Il avait un corps comme nous, mais sans que le péché il était sans péché. Il y a trois expressions dans la parole qui nous parle de cette pureté. Il n'a pas commis de péché, 1 Pierre 2. Il n'y a pas celui qui n'a pas connu de péché. Je ne vais pas me tromper, c'est 2 Corinthiens 5, si je ne voudrais pas m'induire en erreur. Oui, 2 Corinthiens 5, verset 21. Il n'a pas connu le péché, il n'y a pas de péché en lui. Ces trois expressions peuvent être rapprochées de ce que nous trouvons dans la composition de l'encens des drogues odoriférantes. C'était un encens salé, pur, sain. Le sel tient à l'abri de la corruption. Pur, c'est qu'il n'y a pas de faute. Et sain, ça veut dire entièrement séparé du mal. Le Seigneur n'a pas commis de péché, personne ne pouvait le convaincre de péché. Quelque part, il se l'a exprimé. Et puis, il est celui qui n'a pas connu le péché. Et il n'a eu aucune relation avec le péché étant sa venue sur la terre. Et c'est ainsi qu'en Luc 2, il est appelé la sainte chose qui naîtra. Une expression qui peut nous choquer, la sainte chose, mais qui nous parle à la fois de cette pureté, cette sainteté. Rien du péché n'est intervenu dans son entrée dans le monde, et puis son humilité, son humilité insondable, que lui, le Créateur, le Dieu éternel, vienne sous la forme d'une créature. La sainte chose qui n'est pas. La parole devint chair. Et puis, je vous lis aussi, il n'y a pas de péché en lui. On trouve ça dans Jean 3. Il n'y a pas de péché en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il n'y avait en lui aucune volonté autre que la volonté de Dieu. Il n'y avait pas de Dieu. J'ai toujours peur d'employer des mots qui ne conviennent pas. Il n'y avait pas de divergence de pensée ou de volonté entre la volonté du Fils et la volonté du Père. Même quand le Seigneur, comme homme, s'est exprimé dans le jardin de Gethsémané, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, il n'y avait pas de divergence de pensée. Il était venu pour accomplir cette œuvre. Et il le dit à plusieurs reprises, qu'il était venu pour accomplir l'œuvre que le Père lui avait donné à faire. Ça nous montre toute la gloire de la personne du Seigneur Jésus. Une personne à nul ne lui est semblable. La parole devint chair. Et il a habité, où la note nous dit tabernaclé, ce qui veut dire que c'était une habitation comme passagère. Il ne venait pas pour s'établir sur la terre, il a habité au milieu de nous. Nous avons vu sa gloire. L'apôtre dit, nous vîmes sa gloire, nous avons vu sa gloire. Une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Est-ce que cette gloire a brillé aux yeux des hommes? Non. Mais elle a brillé pour la foi. Et cette gloire, elle a brillé chez les disciples, pour la foi des disciples. Et on le voit d'une manière particulière quand Pierre peut dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est bien une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Et le Seigneur est présenté comme le centre des affections du Père, venant sur la terre, et la gloire de sa personne a brillé. Et il est bien dit, la parole devint chair et habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons remarqué, il est peut-être bon de faire remarquer, parce que c'est vrai que quand je me souviens que jeune, et on passe par-dessus les parenthèses, par exemple, et puis on ne voit pas qu'il y a un enchaînement de la parole qui veut dire la parole de la chair habite au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Donc je pourrais se dire, mais pourquoi la parenthèse et pourquoi ça ne mettrait pas, ne pas l'avoir mis après, par exemple. Bon, d'une part, dans le texte original, on s'était placé là et on n'allait pas toucher à l'ordre que la parole de Dieu donne, mais aussi il y a certainement une signification. C'est-à-dire que malgré cette gloire qui a été vue, il est venu dans plein de grâce et de vérité. Et on remarque bien que la grâce est mentionnée avant la vérité. C'est remarquable. Dans cet évangile, la grâce est mentionnée avant la vérité. Quand on lit l'épître, la première épître de Jean, on trouve la lumière avant l'amour. Si la vérité était venue avant la grâce, nous aurions été consumés, parce que cette vérité nous aurait jugés et la grâce ne pouvait plus rien faire. Et ainsi, quand le Seigneur s'approche de nous, la grâce vient avant la vérité. Mais on peut aussi noter que lorsqu'il est dit un peu plus loin, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, on pourrait se dire, mais dans l'original, il faudrait mettre le verbe au singulier. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Le traducteur ne l'a pas fait, pour respecter certainement les règles de la grammaire française, mais il est bon de savoir que le verbe est au singulier. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dissocier la grâce de la vérité. Et Dieu ne serait pas Dieu s'il agissait en grâce sans maintenir la vérité. Mais on ne peut pas dissocier les deux. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Et pourquoi ? Et il est ajouté, « Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Personne ne pouvait connaître Dieu. Personne ne pouvait faire connaître Dieu si ce n'est une personne divine elle-même. Parce que Dieu est infini, et l'homme fini, qui est limité parce qu'il est une créature, ne peut pas connaître l'infini, ne peut pas connaître quelque chose de l'infini, si ce n'est pas par le moyen de celui qui est infini. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Je pourrais ajouter quelques pensées sur ce premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Avant, nous comprenons que quand nous nous approchons de ces passages d'Écriture, nous le faisons en tremblant. Car nous avons toujours cette crainte de toucher à la gloire du Seigneur. C'est toujours en tremblant. Mais si la parole nous parle ainsi, ce n'est pas pour que nous fermions nos yeux sur ces versets, nos oreilles, nous le comprenons bien, mais avec ce saint respect et cette sainte crainte qu'il convient à des êtres, aux êtres que nous sommes. L'Épître aux Hébreux nous dit, Dieu ayant parlé autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières. Dieu avait parlé, nous savons que Dieu a parlé. Dans les temps qui ont précédé la venue du Seigneur Jésus, Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage, Dieu a parlé. Et tout homme qui voulait réaliser qu'il était une créature et qui voulait connaître quelque chose de Dieu, pouvait le faire, Dieu a parlé. On a, d'une manière particulière, ce que Dieu a révélé à son peuple Israël, les pères et les prophètes. Mais dans le mot « les pères », je pense qu'il faut aussi englober ceux qui, dans les temps anciens, ont connu Dieu. Et on pense particulièrement au livre de Job. Job ne faisait pas partie du peuple d'Israël et il est un de ceux qui a fait une connaissance remarquable de ce qu'est le Seigneur. C'est lui qui a écrit, qui a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier se tiendra debout sur la terre. » Il connaissait le Rédempteur, celui qui rachète. Il savait qu'il était vivant, c'est pas. Or, avant, de standard, on offrait des sacrifices pour lorsqu'il y avait des fautes. Le Rédempteur était vivant. Il se tiendra debout sur la terre. Il avait la conscience de la résurrection. On peut peut-être lire ce verset pour dans le livre de Job, chapitre 19, si je ne me trompe pas. Job 19, verset 25. Et moi je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair je verrai Dieu, que je verrai moi pour moi-même, et c'est mes yeux le verront, et non un autre. Nous avons dit, il savait qu'il était, il connaissait le Rédempteur, il savait qu'il était vivant, il savait qu'il se tiendrait debout sur la terre, c'est-à-dire qu'il aurait toute autorité sur la terre, et avec ça, il connaissait aussi la résurrection. Après ma peau, ceci sera détruit. Il voyait bien le dépérissement qu'il avait dans son corps et qu'il conduisait à la mort. Mais il ajoute, de ma chair, je verrai Dieu. C'est donc la preuve qu'il avait, il savait que ceux qui connaissent Dieu ressusciteraient. Et il ajoute, que je verrai moi pour moi-même, mes yeux le verront. On trouve cette certitude dans le Nouveau Testament, mais on trouve donc cette certitude que les saints verront Dieu. Or certes, Job ne pouvait pas savoir qu'il verrait Dieu dans la personne du Seigneur Jésus, mais il avait cette certitude qu'il le verrait de ses yeux. Nous aussi, nous avons cette certitude. Mais cela est éclairé par le Nouveau Testament. On voit que ces saints de temps ancien avaient une intelligence des pensées de Dieu. Dieu s'était révélé à eux d'une manière qui nous pourrait presque nous surprendre, mais qui ne nous surprend pas quand nous connaissons notre Seigneur et que nous savons comment il prend soin de ceux qu'il recherche. Il a donc parlé à plusieurs reprises, par plusieurs manières, au Père, et puis aussi aux prophètes. Et les prophètes sont ceux qui ont révélé la portée de la pensée de Dieu et comment Dieu allait se révéler. On trouve quelque chose de cela dans la première épître de Pierre, quand il est dit que l'Esprit de Christ, 1 Pierre 1, verset 11, l'Esprit de Christ qui était en eux indiqué, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur a fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel. Voilà. Les prophètes ont annoncé ces choses-là. Les pères ont une connaissance particulière de Dieu. Les prophètes ont annoncé les choses à venir et entrevoyé ces choses qui concernent la glorieuse personne du Seigneur Jésus. Et alors il nous est dit, et à la fin de ces jours-là, nous a parlé d'un fils, ou la note nous dit en fils. En fils. En fils ou en fils, ou dans la personne du fils. Pour se faire connaître, et nous l'avons vu en lisant Jean 1, personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Il est le Fils unique, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul qui pouvait faire connaître Dieu. Il est dans le sein du Père, ce qui nous montre que la parfaite divinité, la parfaite divinité de la personne du Seigneur Jésus, personne divine, distincte du Père, mais de même nature que le Père. Lui nous l'a fait connaître. Ce que les pères ont connu de Dieu quand il leur a parlé au Père et aux prophètes, ne pouvait être qu'imparfait, non, ne pouvait être que limité par rapport à ce que Dieu voulait faire connaître de lui-même et qu'il a fait connaître dans la personne du Seigneur Jésus. Et c'est à la fin de ces jours-là, c'est-à-dire que après la révélation de ce que Dieu est dans la personne du Seigneur, et que la parole de Dieu ait été complète, il n'y aura pas de nouvelle révélation. Et c'est une chose que nous devons bien retenir. On entend dire des fois que Dieu m'a révélé ceci ou cela. J'ai eu une vision, j'ai eu ceci. Non. Tout ce que nous avons à connaître du Seigneur, c'est dans la parole de Dieu. Alors que le Seigneur nous conduise par des éléments quant à notre marche ou quant à notre engagement dans tel ou tel service, c'est une chose. Mais quant à la connaissance que nous devons avoir de Dieu et de sa pensée, nous l'avons dans la parole et nulle part ailleurs. Et c'est l'Esprit qui nous conduit dans la connaissance de la pensée de Dieu. L'héritier de toute chose ne peut pas être trop long. Et nous voyons par là, nous avons souligné tout à l'heure ce qui est dit dans Colossiens. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Dans ce verset de Colossiens, il y a trois choses. Par lui ont été créées toutes choses. C'est-à-dire que c'est en lui qui a été la puissance, au verset 16 du chapitre 1. C'est en lui qu'est la puissance créatrice, si j'ose parler ainsi. Et puis après, il est dit, par lui, et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est à l'origine de la création et ceci est pour lui. Nous sommes des créatures qui ont été créées pour la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est une chose qui est précieuse de remarquer, la gloire de Dieu est toujours liée à la bénédiction des hommes. Dieu se plaît à bénir. Et si cette gloire de Dieu dans la bénédiction qu'il accorde aux hommes. Et cette bénédiction, nous l'avons dans le salut et nous l'avons dans la position que nous avons en Christ et dans l'espérance qui est placée devant nous. Dieu nous a sauvés, il nous a arrachés aux ténèbres. C'est la puissance de Dieu. On a cité, je crois, ce verset samedi, que Christ est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu nous a tirés des ténèbres dans lesquelles nous étions tombés à cause du péché. Et puis, c'est le salut. Et puis, nous avons la position. Il n'y a plus de condamnation, Romains 1, 8, verset 1, pour ceux qui sont dans Christ Jésus. Une position stable, sûre. Personne ne peut nous condamner, nous qui avons la vie éternelle. Et puis, il y a l'espérance que nous avons, cette espérance qui est en Christ. Et Dieu se glorifie en accordant au moins, dévoilant ses bénédictions, disposant ses bénédictions à des êtres tels que nous. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner et nous élever à une telle position? C'est la gloire de Dieu. Il est héritier de toutes choses, lui qui a fait les mondes, et puis il est l'empreinte et le resplendissement de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa substance. Dans la personne du Seigneur Jésus, ont été vus manifester dans la perfection tous les caractères de Dieu. Son amour, sa sainteté, sa justice. Mais je crois que je les donne dans un mauvais ordre. Sa sainteté, sa justice et son amour. Sa sainteté en ce que sa sainteté brille à la croix, en ce que celui qui était sans péché, qui n'avait pas connu le péché, a été fait péché pour nous. C'est-à-dire traité comme le péché de l'être. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Le péché ne peut pas paraître devant Dieu. Et pendant les heures ténébreuses de la croix, eh bien le Seigneur a été abandonné de Dieu à cause du péché. Et puis il a porté aussi le châtiment de nos péchés. Il a été frappé à notre place, parce que Dieu est juste. Et il fallait que la dette du péché soit réglée. Et puis nous voyons briller l'amour de Dieu. Il fallait une propitiation. Job l'avait. C'est pas Job qui le dit, c'est Élu. J'ai trouvé une propitiation. Il l'emprunte, le resplendissement de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa substance. On souligne qu'il soutient toute chose par la parole de sa puissance, que la main de Dieu se retire et tout tombe dans le néant. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu. Il a fait la purification des péchés. On pense à ce qui se passait le jour des propitiations en Lévitique 16. Il fallait que du sang soit apporté jusqu'à l'intérieur du tabernacle dans le lieu très saint. C'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. C'est par le sang que nous sommes purifiés de nos péchés. Il a fait la purification des péchés. Et puis maintenant, il est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. C'est le Seigneur comme homme qui nous a parlé en Fils qui est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Peut-être prendre un exemple. Quand un roi siège sur son trône, et il fait asseoir souvent l'héritier du trône à sa droite. C'est la position la plus élevée qu'un homme peut obtenir, avoir dans le royaume, en dessous du roi. Le Seigneur, comme homme, a la position la plus élevée que puisse occuper un homme. Il est assis à la droite de Dieu. Il n'y a pas de position plus élevée. À la droite de la majesté dans les hauts lieux. Il est devenu plus excellent que les anges, lui qui a hérité d'un nom plus excellent que lui. Et cette épître est écrite aux Hébreux, il faut s'en souvenir quand nous la lisons. Et les Juifs avaient reçu la loi par le moyen des anges. On trouve cela, je crois, dans le discours d'Étienne, au chapitre 7 des Actes. Et aussi, je crois, dans l'Épître aux Galates. En Galates 3, verset 19, il est dit qu'elle a été ordonnée par les anges, par la main d'un médiateur. Et en Actes 7, verset 53, vous avez reçu la loi par la disposition des anges. Les anges avaient donc, et puis nous savons comment les anges sont intervenus dans l'histoire du peuple d'Israël. Et on pouvait être tenté de donner une place importante aux anges. Et là, il est bien dit qu'il a reçu, il est devenu plus excellent que les anges, puisqu'il occupe une position que seul, qu'aucun autre, aucune créature ne peut occuper. Il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux. Quel est ce nom plus excellent qu'eux? C'est le nom de Jésus. Si j'ai bien compris, c'est ce nom-là. C'est le nom devant qui tout genou se ploiera. C'est le nom du Sauveur. Et il n'y avait pas personne d'autre que lui ne pouvait être le Sauveur. Et c'est le nom qu'il porte et qu'il portera éternellement. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, dit le Seigneur à la fin de l'Apocalypse. Il ne dit pas moi le Seigneur, mais moi Jésus. Ce nom que j'ai pris en entrant dans le monde, qui nous parle du plan rédempteur de Dieu à notre égard. Il a un nom plus excellent que les anges. Mais Dieu établit aussi sa suprématie. Tu es mon fils. Et encore, moi, je lui serai pour père, lui, il me sera pour fils. Quand il est dit, tu es mon fils, il ne faut pas se laisser tromper par des hommes qui contestent ce titre que le Seigneur porte et qui disent que ce n'est pas possible. Si Dieu le dit, nous courbons. Que nous n'entrions pas dans tout ce que comporte ce que Dieu dit, c'est vrai, nous sommes limités, et bien souvent, nous aimerions comprendre, et puis nous ne comprenons pas. Nous mettons, toi et moi, des années, une vie entière pour comprendre une vérité qui est cachée dans l'Écriture. Mais Dieu nous l'a dit, et nous ne doutons pas. Et puis il est bien clé aussi le premier-né dans le monde, verset 6. Le premier-né, c'est celui qui a la prééminence. Et il est le premier-né de la création, c'est-à-dire qu'il a la prééminence dans la création. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Il a introduit le premier-né dans le monde. Et il dit que tous les anges lui rendent, de Dieu lui rendent hommage. Puis je voudrais m'arrêter encore sur une autre expression. Après, au verset 8, le psaume 45 est cité. Quant au Fils, ton trône, ô Dieu, est au siècle des siècles. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, t'a oint aux nuits de joie au milieu de tes compagnons. Le Seigneur aura des compagnons et trouve déjà ses compagnons, c'est-à-dire ceux qui sont avec lui. Mais il est oint d'une nuit de joie au-dessus de ses compagnons. Il est si le Seigneur trouve bon de nous attirer autour de lui comme de ceux qui sont ses compagnons, ses disciples en Jean 15, il dit, vous êtes mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Il nous introduit dans une telle relation de confiance, j'allais dire de confidence, puisqu'il nous fait connaître tout ce qu'il a entendu de son Père, mais il nous introduit aussi autour de lui comme ses compagnons, ceux qui partagent avec lui, mais il est au-dessus et il est loin d'une huile de joie, au-dessus de ceux dont il s'entoure. Puis je voulais la suite nous le présente aussi comme celui qui a fondé la terre, les œuvres de ses mains qui périront. Et il est dit, Ils vieilliront tous comme un habit, tu les plieras comme un vêtement, ils seront changés, mais toi, tu es le même, tes ans ne cesseront pas. Cette création que Dieu a formée, elle a été faite pour que Dieu accomplisse ses conseils qui étaient dans que le Seigneur et soit entouré de créatures capables de rendre intelligente pour le louer, connaissant ce qu'il est et ainsi exaltant ce qu'il est et aussi exaltant ce que Dieu est. Mais cette création, quand Dieu aura accompli ses conseils, les conseils de son cœur à l'égard du Seigneur, cette création, elle n'aura plus lieu d'être. Il la pliera. Nous lisons ailleurs que cette création, la terre et le ciel de maintenant sont réservés par la parole pour le feu, mais cette création n'aura plus lieu d'être. Parce que Dieu aura accompli ses conseils envers pour la gloire de son Fils et pour la bénédiction d'une multitude de rachetés. Des myriades de myriades, des milliers de milliers. Nous avons noté que le Seigneur s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts cieux. Et à la fin du chapitre, il est dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marche-pied de tes pieds. » Deux choses. D'une part, c'est le Seigneur, Dieu le Père, qui le fait asseoir à sa droite. Et d'un autre côté, il s'assied lui-même à la droite de la majesté dans les hauts cieux. On trouve cela, je crois que c'est à la fin de l'évangile selon Marc. Chapitre 16, verset 19. Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Il a été élevé en haut dans le ciel. Dieu l'a élevé. Il n'a pas été enlevé, il a été élevé. Et puis il s'assied à la droite de Dieu. Il prend la place que Dieu lui donne et dont il est éternellement. Et puis il viendra un jour que tous ses ennemis seront mis au marche-pied de ses pieds. Il a assujetti, on trouve cela dans le chapitre suivant, toutes choses lui sont assujetties. Nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient assujetties. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur. On aime s'arrêter sur la gloire du Seigneur Jésus. Et plus nous serons occupés de cette gloire, rendus sensibles à cette gloire qu'occupe le Seigneur, cette gloire qui a brillé sur la terre, plus nos cœurs s'attacheront à lui. Et cela aussi nous préserve de nous égarer et de nous laisser entraîner dans de mauvaises choses dans le chemin. La contemplation du Seigneur rafraîchit l'âme, mais a aussi un effet sanctifiant sur l'âme, parce qu'elle nous détourne de ce qui est mauvais. On ne peut pas associer le nom du Seigneur à quelque chose de mauvais. Le Seigneur nous donne d'entrer un peu mieux dans l'infini de ce qu'est sa personne, pour jouir davantage de lui.
Yeah.